ils ont la tendance à le reprendre à nouveau. Et ils prennent un certain goût à ce médicament. Et le but de ce médicament, comme je l'ai dit au départ, c'est tout simplement d'avoir un bien-être. D'avoir un bien-être, de se sentir bien, de se reposer et tout. Mais le fait qu'ils le prennent de manière illégale et de manière répétitive, c'est parce que ce médicament a transcendé les hormones. C'est-à-dire qu'il a, il est entré dans leur cerveau, dans leur sang, et a développé un goût. Et puis, ils se mettent à le prendre de façon non contrôlée. Et ils ne comprennent plus les effets de ce stupéfiant dans leur corps, dans leur organisme.
Alors, docteur, y a-t-il des signes de la dépendance à la drogue qui peuvent alerter?
Oui, on peut ne pas détecter des signes, c'est-à-dire des signes visibles. Mais nous savons que, par exemple, la jeunesse aujourd'hui a développé un certain nombre de plaisirs exogènes, c'est-à-dire que des plaisirs venant de l'extérieur, qui les pousse à vouloir démontrer qu'ils sont efficaces. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le jeune veut démontrer qu'il est plus compétitif que l'autre, il est plus efficace que l'autre, et qu'il peut faire telle ou telle chose plus que l'autre. Voilà des signes. Je prends un exemple, les femmes. Ce sont des facteurs qui poussent les jeunes à vouloir prendre des drogues. Ils se disent, il faut que j'aille démontre à ma copine que je suis efficace, que je suis bien. Autrement dit, elle va me quitter. Ça, c'est dans le deux, la chance réelle. C'est-à-dire que je vais montrer à ma copine que j'ai de l'argent. Et pour que j'ai de l'argent, il faut que je me dope, pour que je sois plus courageux, que je développe un courage au-delà de ce qui est normal. Pour pouvoir soit casser une maison, pour pouvoir peut-être agresser et casser une banque, casser, je ne sais pas moi, détourner, voler, afin de satisfaire ma copine. Vraiment, je prends une image comme celle-là pour rester dans ce cadre, afin qu'on comprenne qu'est-ce qui peut pousser le jeune à vouloir prendre du stupéfiant. Donc, je dois satisfaire ma copine, je dois satisfaire ma petite amie, ou alors vice-versa. La petite amie veut satisfaire son garçon, son petit gars, et il ou elle se jette pieds et poings liés dans la prise de stupéfiants. Et ils savent très bien que c'est illégal, mais parce qu'ils ont pris goût au départ, c'était simplement une expérience qu'ils devaient, ils voulaient expérimenter, une expérience qu'ils devaient avoir, basée peut-être sur un conseil d'un ami qui leur a dit, voilà, essayons par exemple ci ou ça. Et donc, après ça, ils tombent dans ce qu'on appelle l'addiction, c'est-à-dire le goût de la prise de ce stupéfiant.
Ok, mais ce goût s'accompagne certainement des risques. Est-ce qu'il y a des risques physiques et psychologiques liés à la consommation de la drogue?
Bien sûr, il y a beaucoup de risques, madame, je vous assure. D'abord, si je prends l'exemple des opioïdes. Les opioïdes sont des drogues prescrites médicalement. Et le médecin va vous dire que c'est contre les douleurs fortes, les douleurs sévères. Mais illégalement, des individus se lancent dans les opioïdes parce que voilà, le mal de tête ne cesse. Et puis ils s'y lancent et puis ils commencent à les prendre. Les opioïdes, par exemple, sébastan, méthamphénopine. Ces opioïdes, ces médicaments sont très dangereux et ça a des effets néfastes dans l'organisme. Je vais prendre deux dimensions parce que quand nous faisons les évaluations psychologiques de ces personnes déjà addictives des opioïdes ou bien des stupéfiants, nous partons sur la base de 6 étapes, c'est-à-dire que 6 modèles ou 6 sessions. Nous commençons généralement par évaluer la dimension biologique. La dimension biologique qui est celle de l'intoxication que le stupéfiant va avoir dans le corps du sujet. Donc les intoxications, quels sont les risques qui sont associés, n'est-ce pas, à cette prise de stupéfiant par ce garçon. Et dans cette dimension biologique, lorsque nous l'avons évalué, s'il n'y a pas d'intoxication grave, ok, on va tout simplement procéder à ce que nous appelons la thérapie. Mais s'il y a des conséquences graves, des risques graves qui peuvent dégénérer sur le plan biomédical, c'est-à-dire que la condition médicale de celui-ci a été entamée, il y a par exemple une maladie chronique qui s'est assise et tout ça, alors nous faisons de la référence, nous le référons. Bon, maintenant, il y a une autre dimension que nous appelons la dimension psychologique. C'est-à-dire que la dimension psychologique, c'est-à-dire cognitive, ou bien comportementale, ou bien même émotionnelle. Vous voyez, quand quelqu'un a fini de prendre la drogue, sur le plan émotionnel, son sourire n'est plus un sourire net. Voyez-vous, il n'a plus un sourire adéquat, un sourire net, comme je dis. Il, de façon exagérée, va montrer ses dents. Ses yeux commencent à être larmoyants. Le comportement psychomoteur est lent, c'est-à-dire l'action de son corps, ses mains, sa démarche, il titube, ainsi de suite. Et ça, l'évaluation peut nous pousser à consulter un psychiatre pour une prise en charge psychiatrique, une prise en charge médicamenteuse. Et comme je dis, c'est un niveau de fonctionnement assez grave.
Est-ce qu'il y a des options de traitement pour venir en aide à ceux qui sont dépendants de la drogue? On précise bien la drogue qu'on prend de façon illégale et anarchique.
Bien sûr, c'est ce que je disais. La drogue illégale, la drogue anarchique, c'est ce qu'on appelle la dépendance de la drogue des stupéfiants. Je disais que la dimension biologique, elle est là. Nous l'attaquons, c'est-à-dire que lorsque nous avons évalué le degré d'acuité intoxicationnelle, il y a une intoxication potentielle, on va travailler dessus, on va voir quels sont les risques que le client, le sujet ouvre, n'est-ce pas, dans ce domaine-là. Bon, maintenant, il y a également dans cette même dimension, il y a la partie B qu'on appelle la dimension médicale. Quels sont les médicaments que le sujet doit prendre au cas où il y a une chronicité, c'est-à-dire que cette stupéfiant ont développé dans son corps, vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, il y a ce qu'on appelait la dimension psychologique, qui est également celle de l'évaluation cognitive, comportementale et voire même émotionnelle. Parce que la condition du sujet addict à la drogue illégale est une condition psychologiquement entamée. Et nous nous rassurons que s'il a été entamé psychologiquement, ça veut dire que son comportement va évoluer vers l'extrême, vers le négatif, vers la sévérité. Et cette sévérité-là nécessite, n'est-ce pas, la consultation d'un psychiatre.
Alors, docteur, comment prévenir la consommation illégale des stupéfiants de façon générale dans la société, mais surtout auprès des jeunes?
La prévention passe par la responsabilité de l'État à réduire la vente ou alors réduire l'accès de ces stupéfiants aux jeunes. Je sais, ce que je viens de dire là, c'est presque une utopie, mais c'est une responsabilité néanmoins. Si les États dans le monde entier pouvaient contrôler de façon sérieuse à réduire ces stupéfiants, je crois que la jeunesse n'aurait pas moyen d'y arriver. Et il est vrai que certains États ont mis sur pied des stratégies pour contrer cela. Par exemple, la police qui veille à ce que dès qu'on vous a trouvé avec un stupéfiant, on vous arrête, ainsi de suite. La répression va intervenir. Mais je disais, l'État va devoir faire ça. Maintenant, l'État a aussi d'autres moyens, et ça c'est un moyen aussi important. Quiconque a senti que son stupéfiant qu'il a commencé à prendre dans sa vie ont développé des inaptitudes en lui, cette personne peut se rendre dans un milieu de soins. Et il en existe cinq. On en existe cinq niveaux de soins à ce moment-là. Si vous êtes prêt à vous y engager, ce n'est pas forcément, comme je parle de la dimension biomédicale, ce n'est pas forcément l'hôpital que vous devez vous limiter. Vous devez également essayer de vous lancer à ce que nous appelons le niveau des soins intensifs. Maintenant, l'autre point de salut, ma foi, c'est vraiment la prière. Vous savez, rien n'est impossible à Dieu, rien. Et si vous, un temps soit peu, après vos sessions de thérapie avec votre clinicien, vous pouvez vous remettre entre les mains du Seigneur, et il va vous guérir, parce que Dieu guérit, je pense, je crois, que Dieu guérit aussi les individus qui souffrent des maladies liées aux stupéfiants.
Je vous remercie, docteur.
C'est moi qui vous remercie.
C'est la fin de notre entretien avec le docteur Siméon Nomo, psychologue clinicien et spécialiste en addiction. À présent, nous vous invitons à suivre Carnet de santé avec Elor Moudou.
Cette semaine, dans Carnet de santé, nous examinons les dangers d'une consommation d'alcool malsaine pour notre santé. Le docteur Abou Yazid Bachir, médecin de famille nigérian, aborde les problèmes de santé liés à l'alcool et la manière dont la dépendance à l'alcool peut être traitée. En outre, les autorités de la RDC ont approuvé l'utilisation de 2 vaccins contre la variole pour tenter d'endiguer l'épidémie. Enfin, des scientifiques mettent au point une peau synthétique infectée pour faciliter le traitement des personnes souffrant d'eczéma. Ces histoires et bien d'autres encore dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour, je suis Lina Roudou. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Des millions de personnes dans le monde boivent de l'alcool. Certains le font à l'occasion de célébrations et de divers rassemblements sociaux. D'autres se tournent vers l'alcool pour mieux se sentir, réduire le stress ou parce qu'il est disponible. Cependant, les experts mettent en garde contre la consommation malsaine d'alcool, telle que la consommation excessive et l'alcoolisme, qui peut mettre en danger la santé et la sécurité des personnes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'alcool est lié à toute une série de problèmes de santé, notamment les maladies du foie, les troubles cardiovasculaires et divers cancers. La cirrhose du foie est l'une des conséquences les plus graves d'une consommation excessive d'alcool à long terme. L'alcool augmente également le risque de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux. Dans son dernier rapport sur l'alcool et la santé, l'Organisation mondiale de la santé indique que le taux de mortalité lié à la consommation d'alcool dans le monde a légèrement baissé ces dernières années, mais reste inacceptablement élevé. Davantage avec Nani Talani.
Le rapport mondial sur l'alcool et la santé, ainsi que le traitement des troubles liés à l'utilisation de substances psychoactives, présente une vue d'ensemble de la consommation d'alcool, des dommages liés à l'alcool et des réponses politiques, ainsi que des capacités de traitement des troubles liés à l'utilisation d'alcool et de drogues dans le monde entier.
We can definitely say that there is no...
Nous pouvons affirmer avec certitude qu'il n'y a pas de consommation d'alcool sans risque, car il existe de nombreux problèmes de santé qui peuvent s'aggraver ou se développer en raison de la consommation d'alcool, y compris le développement d'une dépendance à l'alcool, et les risques et la probabilité de développement de ces problèmes sont très difficiles à prédire. Dans le même temps, nous pouvons également affirmer avec confiance que de très faibles niveaux de consommation, une utilisation très peu fréquente, n'entraînent pas nécessairement des dommages pour les individus.
Environ 400 millions de personnes vivent avec des troubles liés à la consommation d'alcool et de drogue dans le monde, révèle le rapport de l'OMS. Chaque année, l'alcool est à l'origine de près d'un décès sur 20 dans le monde, des décès dus à la conduite en état d'ivresse, à la violence, aux abus et aux maladies. L'abus d'alcool rend les personnes plus vulnérables aux maladies infectieuses telles que la tuberculose, le VIH et la pneumonie. Au niveau mondial, au moins 23% des jeunes de 15 à 19 ans sont considérés comme des buveurs. On estime à 400 millions le nombre de personnes souffrant de troubles liés à la consommation d'alcool et de drogue dans le monde. Sur ce total, 209 millions de personnes vivaient avec une dépendance à l'alcool.
Le trouble lié à l'utilisation de l'alcool est un concept plus large que la dépendance à l'alcool. Selon la classification internationale des maladies de l'Organisation mondiale de la santé, ce concept comprend la dépendance à l'alcool et les modes de consommation nocifs de l'alcool. La dépendance à l'alcool est un trouble, une condition qui a des caractéristiques diagnostiques très spécifiques et des exigences très spécifiques pour établir un tel diagnostic.
Selon l'OMS, le taux de mortalité lié à la consommation d'alcool dans le monde a légèrement baissé ces dernières années, mais les cas de consommation excessive d'alcool restent élevés de façon inacceptable. L'amélioration de l'accès à des traitements de qualité est essentielle pour réduire l'incidence de la consommation dangereuse d'alcool.
Le docteur Abouyazid Bachir est médecin de famille à Abuja, au Nigeria. Il parle de l'impact de l'alcool sur notre santé et des traitements disponibles.
C'est une personne qui a toujours envie de boire de l'alcool, d'où le terme alcoolisme. Il y a des gens qui prennent de l'alcool de temps en temps, peut-être à l'occasion d'un événement. On ne les appelle pas des alcooliques. Il n'y a aucun symptôme, aucun signe. Quelqu'un qui prend bien l'alcool, par exemple, prend un verre aujourd'hui, puis un autre demain, et encore un autre après. Puis, il va commencer à ressentir les effets de l'alcool. Il lui faut alors augmenter sa consommation, passer d'une bouteille à deux ou trois bouteilles. Parfois, il essaie de voir s'il y a une possibilité d'arrêter, mais il ne parviendra pas. Il gaspillera beaucoup de ressources en prenant cet alcool. Il y a des effets à court terme de l'alcool. Il commence à avoir des troubles du jugement et de coordination. Cela peut affecter son cerveau et provoquer une dépression. Et il y a des effets à long terme parce que cela peut affecter son foie et provoquer une cirrhose. Le foie est un organe très mou. Il deviendra donc cirrhotique. Il sera comme du caoutchouc brûlé. Par la suite, il se transforme en cancer du foie, en hépatome. Cela peut affecter le cœur. Nous l'appelons cardiomyopathie alcoolique. Cela peut également affecter la santé mentale. C'est ce que nous appelons l'encéphalopathie alcoolique. Il est parfois difficile pour le patient alcoolique d'accepter qu'il a besoin d'un traitement. Ensuite, lorsqu'il commence à souffrir de troubles mentaux tels que la dépression et la psychose, il y a une stigmatisation associée. Il ne faut pas le croire sur parole parce que c'est un ivrogne. Voilà donc quelques éléments, l'environnement, l'influence, la pression du groupe de camarades. Vous savez, lorsque vous faites partie d'un groupe de personnes, même si vous ne buvez pas, les membres de ce groupe consomment de l'alcool. Les membres de ce groupe boivent et vous risquez d'être influencé par ce groupe. Ils vous diront de boire un peu. Les implications de l'effet à long terme de cet alcool, comme la cardiomyopathie alcoolique, le traitement est coûteux. Lorsque le cœur est touché, il faut l'enlever. Il faut procéder à une transplantation cardiaque. Et si le foie est touché, il faut procéder à une greffe de foie, une procédure extrêmement coûteuse.
Pensez-vous que la consommation excessive d'alcool est un problème dans votre communauté et que peut-on faire pour soutenir les personnes qui luttent contre l'alcoolisme? Voici quelques réactions du Cameroun.
Oui, je pense que la consommation excessive d'alcool est source de beaucoup de difficultés. Je vois tout autour de moi des gens qui boivent à longueur de journée et qui sont même incapables de payer leur loyer et qui ont beaucoup de problèmes avec leurs locataires. Ils boivent excessivement, ils font des crédits par-ci, par-là.
La consommation excessive de l'alcool est un grave problème dans notre société, dans notre communauté, vu que quand nous regardons directement les hommes, le comportement des hommes et des femmes, qui, au sortir, par exemple, de leurs travaux, de leurs entreprises et autres, de lieux de service, s'arrêtent d'abord dans des bars.
J'ai fait partie de cette communauté. Dans ma jeunesse, quand je parle de communauté, j'ai commencé le travail très tôt, à l'âge de 18 ans, et avec la compagnie, je suis entré dans la consommation excessive d'alcool et du tabac. À 24 ans, j'avais déjà les tremblotes.
Oui, la bière, vraiment, c'est un gros problème dans le Cameroun. La bière met tout le monde mal à l'aise. Ça donne d'abord les maladies. La bière donne la fatigue, les Camerounais ne sont pas eux-mêmes. Ils sont plongés dans la bière, dans l'alcool.
Quand les jeunes ont bu, vraiment, ils deviennent tellement violents. Ils deviennent violents, impulsifs, et puis ils ne connaissent plus, ils ne savent plus quoi dire, à quel niveau, à quel endroit.
Bon, les femmes, quand elles boivent trop, on peut profiter de ces femmes.
Quand un jeune boit de l'alcool, il perd d'abord la tête.
Je crois que c'est pas assez facile, mais il y a un problème de santé, il y a une sensibilisation qu'on doit faire par différents canaux, entre autres la télévision, la radio, et surtout leur montrer les méfaits que l'alcool produit sur leur santé.
Juste des conseils et surtout la volonté d'abandonner, parce qu'il n'y a pas de remède pour ça. J'avais tenté, j'ai pas réussi, mais j'ai pris une décision et ce n'est que la décision ferme, dit je ne prends plus.
C'est très difficile parce qu'au Cameroun, nous n'avons pas du suivi. S'il y avait un suivi pour ces gens-là, ça pouvait les aider. si les gens pouvaient les prendre en charge pour mieux éviter qu'ils consomment de l'alcool, ça peut les aider.
Déjà, ces personnes ont besoin d'un bon entourage. Oui, premièrement, ils ont besoin d'un bon entourage. Et c'est des personnes aussi qu'il faut beaucoup les cadrer, les trouver, essayer de les orienter sur l'objectif qu'il y a à atteindre. Et je dirais aussi qu'ils ont besoin même de l'apport de Dieu.
C'est vraiment difficile pour eux, comme eux-mêmes ils le disent. Mais s'ils peuvent eux-mêmes prendre une prise, s'ils peuvent être conscients, parce que ça ne dépend même que de moi, on ferme même bien les brasseries. Parce que je ne vois pas à quoi ça nous sert.
Les autorités de la République démocratique du Congo ont approuvé l'utilisation de 2 vaccins contre la variole pour tenter de faire face à la recrudescence des cas et à la propagation d'une nouvelle souche dangereuse dans le pays. L'autorité de régulation a délivré une autorisation d'utilisation d'urgence à la fois pour le vaccin Bava.co de Bavarian Nordic Jynneos et le LC16 fabriqué par KM Biologics. Ces deux outils était largement disponible en Europe et aux États-Unis lors de l'épidémie mondiale de 2022. Depuis le début de l'année dernière, le Congo a enregistré 20 000 cas et plus de 1000 décès dus à la variole, principalement chez les enfants, selon les données du gouvernement. L'OMS et les scientifiques mettent en garde contre la propagation d'une nouvelle souche de variole plus mortelle dans la province du Sud Kivu, au Congo. Des scientifiques mettent au point une pause synthétique infectés pour les aider à développer de nouveaux traitements pour les personnes souffrant d'eczéma. Ils affirment que cette peau permettra aux entreprises cosmétiques et pharmaceutiques de tester leurs produits comme s'ils étaient appliqués sur une peau humaine naturelle. Arzuma Compaoré.
Voici un échantillon de peau synthétique cultivée en laboratoire et infectée. Les chercheurs de l'université de Sheffield, Hallam, affirment qu'il pourrait être essentiel pour aider les personnes souffrant d'eczéma.
Ce que nous faisons, c'est que nous créons un modèle de peau enflammée et que nous examinons les différences entre la peau normale et la peau enflammée, ainsi que la matière dont les bactéries ont des relations différentes avec une peau enflammée par rapport à une peau normale.
La peau synthétique n'est pas une nouveauté, mais les chercheurs disent ici qu'il s'agit de la première à représenter véritablement les problèmes de peau dont souffrent les gens.
Nous cultivons de la peau artificielle en laboratoire et nous créons un modèle de peau enflammée représentatif de la dermatite atopique. Nous plaçons ensuite des bactéries de la peau saine sur les modèles pour obtenir un modèle plus représentatif, car les modèles précédents n'utilisaient que la peau enflammée, sans tenir compte du fait que le microbiome de la peau a un effet sur la croissance de la peau.
L'unité de recherche commerciale de l'école collabore avec le géant américain Colgate Palmolive. Leur objectif est de mettre au point une peau artificielle qui simule non seulement l'épaisseur totale de la peau humaine, mais aussi son microbiome, y compris les bactéries, les champignons et les virus. Grâce à ce système, les entreprises cosmétiques et pharmaceutiques pourraient tester leurs produits comme s'ils étaient appliqués sur une peau humaine naturelle.
La technologie que nous développons ici à Waters permet aux chercheurs de sonder les couches de peau artificielle afin de déterminer très précisément la pénétration des différents médicaments et des différentes molécules dans ces sections de peau artificielle. Ils peuvent donc déterminer les différentes couches et la distance à laquelle le médicament a pénétré dans ces couches grâce à notre technologie unique.
Voilà la fin de cette édition de Votre Santé, Votre Avenir. Notre invité, le docteur Siméon Nomo, psychologue clinicien et spécialiste en addiction, a expliqué la nature des stupéfiants, les motivations qui poussent les individus à les consommer de manière illégale, ainsi que les impacts physiques et psychologiques associés à leur usage. Il a souligné l'urgence de traiter le problème de la consommation illégale de stupéfiants, en particulier parmi les jeunes, tout en offrant des perspectives encourageantes sur les options de traitement disponibles et le rôle crucial de l'État dans la mise en place de politiques de prévention, de sensibilisation, ainsi que l'importance de l'accompagnement médical et psychologique pour ceux qui cherchent à se libérer de l'emprise des drogues. Le docteur Siméon Nomo a par ailleurs évoqué la dimension spirituelle dans le processus de guérison et aussi la collaboration entre les institutions, la communauté médicale et la société dans son ensemble est essentielle pour forger un avenir où la dépendance aux drogues illégales est non seulement mieux comprise,
mais aussi plus efficacement contrées. En plus, nous vous avions proposé Carnet de santé avec Linor Moudou. Ce magazine santé a été présenté par Nanit Talani grâce à la réalisation de Michel Joseph. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre santé.